Suivez Priorité Santé avec Sounou Bank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est le genre de problème de santé qui peut empoisonner la vie. La nôtre, quand nous sommes directement concernés, et celle de nos proches, quand les réactions allergiques s'invitent dès l'enfance, dans leur chambre, dans leur assiette, bref, dans leur quotidien. Œil rougi, nez qui coule, peau irritée quand c'est bénin, mais parfois aussi respiration difficile avec oppression et panique, gonflement inquiétant. On l'a compris, c'est bien des allergies dont nous allons aujourd'hui parler dans notre émission Questions de femmes. Une invitation à témoigner au micro de RFI, décrire comment se manifestent les symptômes, dans quelles circonstances les crises se produisent-elles, chercher les causes, les facteurs déclenchants. Essayer de faire la part des choses entre ce qui peut être changé pour prévenir au maximum le retour des éternuements en cascade, identifier aussi ce qui ne peut vraiment pas être écarté dans son environnement et dans ce cas-là, imaginer certaines stratégies à adopter, consulter, envisager une prise en charge adaptée et puis aussi eh bien, vivre avec, gérer son allergie, respecter son traitement, se débarrasser de certaines mauvaises habitudes, des conseils anti-allergiques et des réponses aux questions que vous vous posez au 33 1 84 22 75 75 et sur la page Facebook de Priorité Santé. C'est aujourd'hui dans votre émission. Et pour vous répondre, nous retrouvons comme chaque vendredi notre invité à Dakar dans les studios en full des membres d'un camp de RFI, dont on remercie bien sûr toute l'équipe pour son accueil. Cet invité, c'est vous, professeur Suzanne Yang, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes dermatologue, allergologue, chef du service de dermatologie-vénérologie de l'hôpital Aristide Le Dantec à Dakar et vous êtes également responsable des enseignements de dermatologie à la fac de médecine Cheikh Anta Diop. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez notre rendez-vous avec le carnet de santé, extrait du podcast disponible sur les applis. Reportage aujourd'hui dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Rencontre proposée par Raphaël Constant avec Hélène, une femme qui œuvre pour la santé de sa communauté.
Notre santé, si on en parlait.
Professeur Suzanne Yang, les allergies, elles peuvent concerner différentes parties du corps et avoir un impact plus ou moins important sur la qualité de vie. Est-ce que ce sont surtout les enfants qui sont concernés par ces réactions, parfois des démangeaisons, parfois une gêne?
Alors, il faut dire que tous les âges sont concernés. Les enfants, bien entendu, très tôt, à partir de 3 mois, peuvent commencer à présenter des réactions allergiques. Mais aussi, il faut savoir que les adultes aussi peuvent être concernés. Il y a certaines allergies qui persistent jusqu'à l'âge adulte. Parfois, les allergies guérissent spontanément, mais parfois, ils peuvent survenir même au troisième âge.
Et quand ces allergies, on va dire, disparaissent, est-ce qu'on a des éléments d'explication pour comprendre pourquoi, justement, hier on éternuait, hier on se mouchait, on avait les yeux qui piquent ou la peau qui gratte, et aujourd'hui, eh bien, ça va beaucoup mieux?
Alors, on n'a pas d'explication. C'est ce qu'on appelle la marche atopique. C'est l'évolution au fil du temps des manifestations allergiques. Dans la majorité des cas, les manifestations allergiques de l'enfant peuvent disparaître, que ce soit les allergies alimentaires ou les allergies respiratoires ou la dermatite atopique. Mais dans certains cas, ça peut persister et continuer à altérer considérablement la qualité de vie des enfants. Alors, ce qui est important, c'est que la prise en charge précoce de ces affections allergiques permet de réduire considérablement l'évolution dans le long terme.
Plus on est traité jeune, mieux c'est. Il y a évidemment divers degrés de sévérité, professeur Suzanne Yang. Est-ce que l'on sait d'ailleurs ce qui va rendre quelqu'un plus allergique qu'une autre personne?
C'est ce qu'on appelle le seuil de sensibilité, effectivement, qui diffère d'un individu à l'autre. Il faut savoir qu'il y a une prédisposition génétique et un seuil de sensibilité, d'expression phénotypique de l'allergie qui va dépendre d'un individu à l'autre. Effectivement, c'est des facteurs qui ne sont pas faciles à maîtriser. En tout cas, la prise en charge précoce permet de réduire l'intensité de ces manifestations allergiques. Plus on laisse une allergie évoluer, plus on va avoir d'autres substances qui vont être reconnues allergiques, plus l'allergie elle-même va s'aggraver et plus on va avoir d'autres maladies allergiques qui vont se greffer.
Quand on regarde autour de nous, on a vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques. Professeur Yang, c'est une réalité ça?
C'est exactement une réalité, puisque comme on l'a dit, c'est la modification du mode de vie, ce qu'on appelle la théorie hygiénique. La disparition des maladies infectieuses ont laissé la place aux maladies immunoallergiques. Donc, à partir des facteurs génétiques où il y a une prédisposition, les facteurs environnementaux, la modification de notre mode de vie, l'introduction de nouvelles substances chimiques dans les produits commerciaux, la promiscuité, le confinement, les isolations du domicile, tous ces facteurs vont contribuer effectivement, sans régulation, à l'émergence de plus en plus importante de ces maladies allergiques.
Et on peut dire une première chose pour lutter contre les allergies, aérer.
Voilà, la lutte contre les acariens, surtout en Afrique, où le climat chaud et humide entraîne leur prolifération. Et donc aussi l'absence de diagnostic précoce, puisque la maladie allergique doit être prise en charge dès le jeune âge, avec un environnement adéquat, l'éviction de ces allergènes, comme on dit, pour diminuer le seuil de sensibilité.
On va se retrouver juste après nos premiers témoignages dans Priorité Santé. Et tout de suite, c'est le moment de retrouver notre palabre au féminin. Elles sont deux aujourd'hui au micro de Charlie Dupio, à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne. Il y a Mariam, 28 ans, et José, 60 ans. Toutes les deux souffrent d'allergies alimentaires. Et c'est Mariam qui commence à détailler les siennes.
Moi, je sais qu'il y a des produits acides, par exemple l'ananas, le citron, ou d'autres produits acides, par exemple des oranges ou...
Clémentine, acide.
Quand je les mets, ça peut gonfler mes lèvres. Mais ça, c'est depuis que j'ai eu mes grossesses que ça m'a fait ça. Sinon, avant, en soi... En fait, si vous voulez, ça me fait des cloques dans la langue. C'est plus la langue qui est désagréable. Ça va gratter la lèvre, là. Et la gorge.
Une personne a une autre, d'un organisme à un autre. Oui, moi, j'ai aussi ces problèmes-là, comme vous dites, d'avoir la gorge qui gratte un peu. Et avec la nourriture, c'est une variété. La pâte d'arachide, par exemple, quand j'en mange, j'ai tout de suite des boutons, de l'acné, beaucoup.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a des allergies qui te font des boutons.
Oui. Moi, j'en ai, c'est la preuve, comme j'adore, j'en ai. Je ne peux pas m'en passer, je peux faire 2 semaines, mais après, je retombe un peu. C'est comme du fromage frais, c'est l'acné qui apparaît. J'ai toujours de l'acné. C'est des réactions. J'en ai mangé quand jeudi. Avec de beignets, j'ai pris un peu de la dakatine à côté. Dakatine, c'est la pâte d'arachide.
Ouais.
Pour accompagner mes beignets, et voilà la réaction. Donc, c'est immédiat. Donc, le sauce arachide, je ne supporte pas. Ma peau ne supporte pas. Moi, j'aime mais ma
tu
peau.
Tu manges alors, si tu sais que tu ne supportes pas.
Quand c'est bon, je me dis, je peux me permettre... de temps en temps, parce que c'est tellement bon. Il y a ces repas, on ne peut pas s'en passer. Et quand je fais tout de suite, il y a une réaction. Et quand ça arrive, ça commence par un petit démangeaison. Le matin, je me réveille, je vois des boutons, des petits boutons qui sortent là. Le bas du menton, le bas un peu sur les joues, là, la partie du bas, oui. Oui, c'est là, vous voyez. Il y en a là.
C'est comme ça. C'est pas évident.
Et là, vous avez des petits boutons donc autour de la bouche. Oui. Et ça date d'il y a 4 jours quand vous avez mangé de l'arachide.
Le problème est que ça ressort aux mêmes endroits. C'est ce que je ne comprends pas. J'ai un bouton qui sort là parce que je mangeais soit du beurre, soit du fromage. Je traite, ça passe. La prochaine fois que j'en mange, c'est aux mêmes endroits que ça ressort.
Ah ouais, d'accord. Donc tu sais ce que tu n'aimes pas. Oui. Mais après, c'est la réaction sur le visage. Heureusement que ce n'est pas quelque chose qui est dérangeant.
Quand vous allez chez un dermatologue, il vous pose ce genre de questions. Oui. Vous avez remarqué ces boutons quand? Qu'est-ce que vous avez comme alimentation? Dans votre alimentation, margarine, beurre, arachide, fromage. On vous pose ce genre de questions. Oui, les consorts. Et on vous demande de réduire. Essayez ça pour voir. Vous éliminez petit à petit, comme ça, vous saurez. Ah. Ensuite, vous essayez. Oui, j'ai mangé le beurre de cacahuète, j'ai eu des boutons. Et quand je n'en mange pas, je n'ai plus rien.
Ouais, c'est. Mais toi, tu as l'air d'avoir une peau sensible quand même, parce que tu as beaucoup de petits mini-mini, des petits trucs, là, à chaque fois, des petits,
oui,
j'ai des petits trucs.
Très sensible et très allergique.
Tu as une peau assez fragile.
Ça restera pareil, c'est ce que j'ai compris.
Boutons, c'est des tout petits boutons.
Non, il y a des tout petits, mais moi, comme je ne supporte pas, quand ça démange un peu, quand ça gratte un peu, tu as tendance à faire passer tes doigts là-dessus et puis...
Ouais, c'est ça.
Et c'est ce qu'on m'a déconseillé. Oui, je les éclate, ça gonfle.
C'est pour ça que tu fais des taches noires.
Voilà, exactement. On me conseille de ne pas y toucher. Désinfecte-les directement.
Je le fais.
C'est pas beau à voir. Heureusement qu'on a le maquillage. Ben oui, quand je sors, je cache avec du maquillage.
Un échange que vous avez suivi avec nous. On vous retrouve dans les studios de RFI Dakar. Professeur Suzanne Niang, dermatologue allergologue. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que ces réactions cutanées hein, dont on a entendu parler tout à l'heure à l'instant, c'est vraiment de l'allergie?
Alors, c'est difficile de
bien
le dire.
Bien sûr, à distance.
À distance. Mais il faut savoir que, enfin, il m'a semblé entendre l'acné. L'acné n'est pas une maladie allergique, même si on suppose que certains aliments gras peuvent participer à la apparition. Alors maintenant, ça peut être effectivement une allergie, mais une allergie, un diagnostic d'allergie, il faut qu'il y ait une exploration, des tests allergologiques qui prouvent que l'aliment suspecté est réellement incriminé.
C'est pas la peine de se priver de quelque chose que l'on aime si on fait pas de réaction, effectivement. Alors, vous avez la parole, hein, vous le savez, c'est votre émission, on part pour le Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et en ligne avec nous, Muriel, bonjour.
Bonjour docteur, bonjour Caroline.
Bonjour. Alors Muriel, vous appelez au sujet de votre fille, pourquoi?
Ma fille, depuis 3 ans, elle ne cesse de se frotter les narines, les yeux aussi. Elle faisait des fortes fièvres et je suis allée voir un médecin, Aurel. Après des séries d'examens, il m'a dit qu'elle était atteinte d'une végétation, il fallait opérer. J'ai pas apprécié parce que l'enfant était trop jeune et il nous a prescrit un traitement qu'on a suivi et les fièvres ont baissé. Seulement, elle continue à se frotter les narines, elle éternue tous les jours et moi je pense que c'est une allergie. Donc, je voudrais un peu savoir, avoir des éclaircissements sur cette végétation et aussi les allergies. Est-ce que c'est héréditaire ou ce sont des aliments qui favorisent ces allergies?
Il y a beaucoup de choses dans votre question, Muriel, parce que déjà, il y a un élément qui va alerter, j'en suis certaine, le professeur Niang qui est à votre écoute. C'est ce que vous avez dit de la fièvre. Professeur Niang, fièvre et allergie, est-ce que ça va ensemble?
Non, a priori. Hein. Mais comme l'enfant avait des végétations, effectivement, ça peut favoriser des surinfections, des rhinopharyngites infectieuses. C'est pour cela, en un moment, le médecin ORL a préconisé l'ablation des végétations adénoïdes. Mais les végétations, c'est différent des rhinoconjonctivites allergiques, même si il peut les aggraver parce que ça aggrave la symptomatologie.
Ça ne veut pas dire l'un sans l'autre, ça peut être les deux ensemble, ce qui signifie que cette opération des végétations pouvait être tout à fait justifiée.
Oui, elle était justifiée par rapport aux végétations, mais par rapport à la rhinoconjonctivite allergique, c'est différent, c'est une autre maladie, c'est la maladie atopique qui vient se greffer aux végétations. Et effectivement, si l'indication d'ablation des végétations est faite, je pense que les enlever améliore considérablement la symptomatologie, puisque c'est une symptomatologie qui se rajoute à celle de la rhino-AG, et parfois c'est la même symptomatologie.
Muriel, vous avez des questions sur ces allergies. Est-ce que vous êtes allée consulter un médecin pour vous adresser à lui en lui posant justement la question, est-ce que ma petite finalement ne serait pas allergique?
Non, pas du tout. Bon, après, j'étais un peu découragée parce qu'il avait dit l'opération. Je croyais que le traitement allait faire disparaître ces frottements de nez et ces éternuements.
Professeur Suzanne Niang, c'est quelque chose, je sais bien que vous n'êtes pas ORL, là je m'adresse aux médecins en général, je sais que vous avez quand même un cursus derrière vous. Un enfant de 4 ans opéré des végétations, c'est quelque chose d'assez classique.
Oui, c'est assez classique et l'opération n'est pas du tout dangereuse. Je pense que c'était une peur qui n'était pas justifiée. Seulement, il y a des critères d'ablation. On n'enlève pas automatiquement les végétations. On les enlève quand vraiment il y a un risque infectieux, une altération de la qualité de vie qui justifie qu'on les enlève, même si l'opération est annulée. Mais par contre, ils peuvent régresser spontanément. Je pense qu'à l'âge de 8 ans, il est important d'aller consulter à nouveau pour voir s'il y a une persistance de ces végétations. Et dans ce cas, il faut les enlever. Et surtout que le médecin s'évertue à voir s'il n'y a pas une rhino-conjonctivite allergique qui s'installe et qui est tout à fait possible chez l'enfant. Un tiers des enfants sont considérés atopiques de nos jours. Et donc, faire aussi la prise en charge de ces rhinoconjonctivites allergiques en faisant des explorations allergologiques qui vont déterminer les allergènes de l'environnement de l'enfant, permettre de faire un traitement adapté aux poussées et aussi de gérer l'environnement de cet enfant pour améliorer sa qualité de vie et surtout pour éviter la survenue ultérieure d'un asthme.
surtout, on a bien compris ce message central, hein, retournez consulter Muriel. Merci beaucoup. C'est vous qui avez choisi ce premier titre à partager avec celles et ceux qui écoutent Priorité Santé. Choix musical qui est un hommage à votre maman, aujourd'hui disparue. Sans frontières, c'est Mbilia Bel. On se retrouve juste après dans Question de femmes sur RFI avec vos conseils aux auditrices, professeure Suzanne Yang. Mais oh mon amour, Véa, on t'aime pas si mal. Priorité santé sur RFI, question de femmes, nous parlons des allergies, toujours en compagnie de notre invitée qui se trouve à Dakar, dans les studios en full day, mon incant de RFI, professeur Suzanne Yang, chef du service de dermatologie vénérologie de l'hôpital Aristide Le Dantec à Dakar. Et une question Facebook envoyée par Sadiatou de la Guinée, de Conakry, elle explique que son enfant a des allergies qui lui irritent la gorge, le nez, les oreilles. En consultation, le médecin a expliqué que c'était à cause de la poussière et du parfum. Le médecin a prescrit un antihistaminique de l'Aerius. Mais comme l'enfant a eu des vertiges, et bien donc sa maman, Sadiatou, a tout de suite arrêté. Elle explique que les éternuements peuvent durer jusqu'à 2 heures de temps. Alors on la comprend, elle voudrait savoir ce qui pourrait soulager sa fille, professeure Suzanne Yang. C'est vrai que certains traitements anti-allergiques peuvent fatiguer, faire un petit peu tourner la tête. Est-ce que c'est mieux de les prendre le soir ?
Ça dépend du type de molécule. Je pense que chaque personne avec sa sensibilité, mais dans la majorité des cas, les antihistaminiques, à part les effets sédatifs, sont bien tolérés. Par contre, si les antihistaminiques ne semblent pas réussir en l'enfant, il est possible d'adjoindre des corticoïdes inhalés qui sont inoffensifs puisqu'ils sont microdosés et qu'il faut mettre dans les narines tous les jours. Et avec l'allergologue, on peut mettre des corticoïdes inhalés qui peuvent améliorer considérablement la symptomatologie. Mais il faut savoir qu'il faut identifier les allergènes et améliorer le cadre de vie de cet enfant, l'éliminer des allergènes, l'imprégnation allergénique dans son environnement, dans ses matelas, ses jouets en peluche. Il y a quand même toutes des mesures de protection dans la chambre d'un enfant atopique. Et ça commence par la lutte contre les acariens, les tapis, les moquettes, la literie, mettre des housses anti-acariens, aérer la chambre de l'enfant, dépoussiérer avec le chiffon humide, faire passer l'aspirateur. Je pense qu'avec des conseils de l'allergologue, on peut considérablement améliorer la qualité de vie et mettre un traitement adapté, diminuant l'utilisation des antihistaminiques.
Et on part maintenant pour le Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
On retrouve Pascal, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, Pascal, les allergies, vous connaissez ça depuis longtemps, ça a commencé quand ?
Bon, ça a commencé, j'ai remarqué ça à peu près quand j'avais 25 ans, et là j'en ai 39.
Donc presque 15 ans d'allergie, ça se manifeste comment ?
Alors ça se manifeste avec des irritations au niveau des narines, ça démange, et puis après ça continue, c'est des rhumes, voilà, des éternuements et puis des rhumes.
Et vous prenez des traitements ?
Oui, je prends régulièrement des antihistaminiques de manière générale. Quand il y a des crises, mais généralement, je peux ressentir le besoin environ 4 fois dans la semaine. Donc, c'est pratiquement tout le temps que je prends ces antihistaminiques.
Et c'est le médecin qui vous a donné ces médicaments ?
Oui.
Oui, mais moi, j'ai une question bien précise. Sur l'ordonnance du médecin, il y a marqué de les prendre tous les jours ou il y a marqué de les prendre seulement quand vous ne vous sentez pas bien ?
Le médecin me le prescrit, me dit de le prendre quand je ne me sens pas bien.
D'accord.
On m'a fait faire des tests d'allergie également pour savoir à quoi j'étais allergique. Et ce qu'on a trouvé, en fait, c'est des allergies alimentaires, notamment les cacahuètes, le soja, par exemple. Mais au-delà de ça, j'ai des allergies à tout moment. Il suffit, par exemple, que je quitte le soleil pour entrer dans une pièce avec la climatisation pour que ça se déclenche, ou que je passe à côté d'un parfum, quelqu'un qui se parfume, je passe à côté et c'est le dégustatif.
Des situations que vous ne pouvez pas contrôler, évidemment, on l'a bien compris. Professeur Niang, qu'est-ce que vous pouvez dire à notre auditrice qui voudrait bien sûr bien vivre avec ses allergies ? Et en préparant l'émission, elle a aussi expliqué qu'elle avait 2 enfants et elle se demandait s'ils avaient des risques d'être allergiques à leur tour.
Alors, bien évidemment, il y a une prédisposition génétique, donc l'hérédité joue un rôle important. Et il faut dire que ces enfants ont 25 fois plus de chances de faire des allergies. Donc, d'où l'importance très tôt de les protéger d'une imprégnation allergénique importante dans leur environnement. Alors, l'autre chose aussi, je pense qu'une prise en charge isolée d'antihistaminique, dans ce cas précis, ne peut pas être suffisante. Et que ce serait important qu'on renforce le traitement par des corticoïdes inhalés à mettre dans le nez tous les jours, parce qu'apparemment, c'est une rhinite persistante, légère, mais c'est qui demande quand même l'utilisation de corticoïdes. Et surtout que les mesures environnementales, sûrement il y a une allergie aux acariens ou aux moisissures, en tout cas des plumes allergènes, l'éviction soit faite, parce que sinon, la dose thérapeutique va être importante si l'éviction des allergènes n'est pas accompagné du traitement.
On remercie infiniment Pascal. On va retourner au Congo-Brazzaville. Destination Pointe-Noire maintenant avec Michel en ligne. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour docteur.
Alors vous aussi Michel, c'est au sujet de votre fille que vous nous appelez. À quoi cette petite fille est-elle allergique ?
Alors elle est allergique à la poussière et au froid.
Et vous avez consulté Michel ?
Oui, j'ai consulté au moins pas mal de pédiatres. Parce qu'au début, ça commence toujours par... dès qu'elle attrape un coup de froid, elle commence à éternuer 1 ou 2 fois. Ensuite, son suit la toux. Elle va se mettre à tousser pendant un moment jusqu'à vomir pour se sentir soulagée. Et les pédiatres que j'ai consultés, généralement, me prescrivent tout simplement des sirops à base de plantes avec des antihistaminiques. Je donne pendant un moment, ça se calme. Il suffit qu'elle attrape seulement un coup de froid où elle aspire de la poussière, et ben tout le problème commence. Et elle prend des antihistaminiques tous les jours. Je dis bien tous les jours, je lui donne du sirop, tous les jours. Ça me fait de la peine, parce que je voudrais bien savoir, est-ce qu'il y a des répercussions, le fait de prendre des antihistaminiques tous les jours, est-ce qu'on en guérit, quelle est la cause? Parce que je ne sais pas, le fait qu'elle soit née prématurée peut être aussi l'une des causes. Si bien que j'ai même supprimé tout ce qui est sucrerie aussi, au niveau des goûters, des friandises, tout ce qui est sucré, je ne lui donne plus. Parce que je me dis que ça accentue aussi la toux quand je lui donne tout ce qui est un peu sucré.
Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Ça s'est prouvé ? Elle a fait des tests ? Pourquoi vous pensez que le sucré la rend malade ?
C'est un constat. Généralement, quand je sors avec elle, on joue en pâtisserie, on mange 2-3 gâteaux. Le soir, quand elle rentre, elle va se mettre à tousser jusqu'à vomir.
Combien de temps, excusez-moi, après avoir mangé ces gâteaux ?
Ça peut faire 1 semaine, 2 semaines.
Après avoir mangé les gâteaux ?
Oui. En tout cas, le jour même qu'elle mange les gâteaux, dites-vous que le soir, quand je vais rentrer, elle va tousser, elle va vomir.
Mais plusieurs heures après avoir mangé ?
Oui, plusieurs heures en tout cas.
Michel, votre petite fille, vous êtes allée parler de tous ces problèmes avec un pédiatre ?
Déjà. On a eu à faire des examens.
Ouais.
On nous avait presque aussi demandé de faire pas mal d'examens. Parmi les examens, on avait la glycémie. Il y a, je ne sais pas, vraiment tout un tas d'examens. On n'a rien trouvé.
Vous n'avez rien trouvé. Vous avez fait des examens aussi en gastro-entérologie pour ce qui est de sa déglutition, de choses comme ça ?
Là, non.
Professeur Suzanne Niang, qu'est-ce que vous suggère ce témoignage de Michel qui parle de réactions assez retardées après avoir ingéré, par exemple, du sucre pour une petite fille qui prend des histaminiques au long cours ? Et il y aura aussi une autre question, savoir si prendre ces médicaments tous les jours, c'est bon ou mauvais ?
Alors, c'est vraiment dire qu'il est justifié pour cet enfant d'avoir une prise en charge allergologique parce qu'apparemment, il y a des allergies respiratoires, il y a des allergies alimentaires, mais on ne peut pas dire que quelqu'un est allergique à quelque chose si cela n'a pas été prouvé par des explorations. Parce que l'erreur qu'il faut éviter, justement, c'est de faire des évictions alimentaires non justifiées qui peuvent parfois retentir sur la croissance de l'enfant ou même altérer la qualité de vie, puisque c'est des privations supprimées. Je pense qu'avec une prise en charge allergologique, on fait des tests alimentaires pour voir si c'est vrai les allergies alimentaires, pour ne pas les imputer à tort, ou alors voir ces toux asthmatiques. Est-ce que c'est une toux qui relève de l'asthme? Il faut considérer comme une véritable maladie asthmatique, et dans ce cas, il faut une prise en charge avec un traitement d'attaque, des crises de toux, et parfois des traitements de fond. Et le traitement de fond, c'est un traitement quotidien qui est appliqué par des corticoïdes inhalés et des bronchodilatateurs à longue durée d'action et qui vont permettre d'espacer de manière considérable les crises d'asthme chez cet enfant. Donc, il faut consulter pour être sûr que c'est une toux asthmatique et prendre cet asthme dans le cadre de la maladie allergique. Les antihistaminiques et les corticoïdes inhalés pour la rhinite allergique et gérer la toux comme une véritable maladie asthmatique si c'est confirmé par l'exploration fonctionnelle respiratoire, et aussi essayer de voir s'il y a des allergies alimentaires associées pour pouvoir sélectionner les aliments à éviter ou pas. Mais en général, les allergies alimentaires sont une réaction immédiate.
Immédiate. Donc, quand on vomit 2-3 heures après avoir mangé quelque chose, ça va davantage, on va dire, être plus quelque chose de digestif qu'allergique.
Oui, mais que l'allergie alimentaire peut se manifester éventuellement par des signes digestifs. Hein. Ça fait partie de la symptomatologie.
Ça va ensemble, donc ce n'est pas forcément contradictoire.
Non, ce n'est pas contradictoire, mais il faut le prouver.
Hein, pour et pour ça, il faut retourner en consultation.
Oui, allergologie. Et surtout faire des explorations allergologiques, malheureusement, qui ne sont pas disponibles dans tous les pays. Et c'est pour ça qu'on est en train de nous battre en Afrique pour qu'il y ait beaucoup plus d'allergologues dans les pays. Et des formations sont organisées dans tous les pays africains en collaboration avec l'Université de Toulouse, avec l'association française d'allergologie pour permettre de pouvoir faire des explorations allergologiques qui seules permettent de confirmer la nature allergique d'une substance.
On l'a bien compris. Merci beaucoup Michel pour votre appel. On va faire du chemin. On part pour l'océan Indien, Madagascar, avec en ligne Mahendre. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Est-ce que j'ai bien prononcé votre prénom?
Ça se prononce Mahendre.
Ah bah voilà, j'en étais sûre. Alors Mahendre, je ne vais pas me planter, comme on dit trivialement, une deuxième fois. Dites-nous le nom de la ville où vous habitez.
Fianarantsoa.
Merci. Et vous aussi alors, Mahendre, vous avez des allergies. Qu'est-ce qui vous fait réagir?
Ce qui me fait réagir, ce sont les poils de chien et de chat, et aussi le changement climatique. Et il y a aussi certains aliments, des fruits de mer, des crustacés, des crevettes, des langoustes, des crabes.
Bon, je vous plains parce que quand on vit au bord de la mer et qu'on ne doit pas manger toutes ces bonnes choses, c'est quelque chose d'assez pénible. Alors, vous remarquez que ces réactions allergiques, elles se manifestent à des périodes particulières?
Oui, quand il y a un changement climatique. Dans ma ville, ce n'est pas agréable le climat pendant le printemps et les automnes parce que le matin, il fait très froid et le midi, il fait vraiment très chaud. Et le soir, il fait très, très froid. Et j'ai des allergies par rapport à ça, j'ai des démangeaisons au niveau des orifices, dans le palais, dans ma bouche, dans mon nez, dans mes yeux et mes oreilles. Et j'ai aussi parfois des rhinites.
Et vous avez observé un certain nombre de changements depuis l'adolescence, hein, c'est ça?
Oui, à partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir mes règles. Et pendant ces périodes-là, chaque mois, j'ai des crises d'allergie, des rhinites, parfois de la grippe. Et aussi des démangeaisons partout dans les orifices. Et ça me gêne beaucoup. Surtout quand j'ai les règles douloureuses, qu'il y a des douleurs au niveau du bas du ventre. Et il y a aussi les démangeaisons. C'est vraiment très gênant.
Et vous avez remarqué justement ces allergies, qu'elles se déclenchent en quelque sorte au moment de vos menstruations?
Oui, je sais pas. Une journée avant l'arrivée des règles. Et puis pendant les 4 jours, 5 jours de règles.
Et vous avez déjà vu des médecins pour ça, hein?
Une sage-femme, et elle m'a dit que ça pourrait être à cause de perte du sang, que je suis vulnérable, et il faut manger sain, il ne faut pas manger des produits industriels, il faut manger des produits bio, des légumes et des fruits.
Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vos réactions allergiques, dans la ville où vous vous trouvez à Madagascar, est-ce qu'il y a un allergologue ou il n'y a pas de ces spécialistes?
Je crois que non, mais à l'âge de 13 ans, mon père m'a déjà amené chez un pneumologue. Mais à ce moment-là, on s'est intéressé sur l'asthme parce que moi aussi, je suis asthmatique, tout comme ma mère.
Et vous prenez des traitements pour justement prévenir les crises d'asthme?
Oui, bien sûr.
Alors, votre question, c'est quoi précisément? Parce qu'on comprend que vous avez vraiment des allergies aussi nombreuses que gênantes.
Ma première question, c'est que y a-t-il quelque chose à voir avec l'allergie et l'hérédité? Parce que ma mère aussi, elle fait des réactions allergiques par rapport à certains aliments et le changement climatique aussi. Et ma deuxième question, c'est que qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de ces problèmes d'allergie pendant les menstruations? Parce que je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de manger sain, des fruits et légumes, mais ça n'a pas marché.
Alors, deux grandes questions. Celle de l'hérédité, hein, j'ai bien écouté le professeur Suzanne Yang tout à l'heure en début d'émission, et vous disiez, professeur, 25 fois plus de risques d'hériter de ces allergies quand les parents l'ont par rapport au fait qu'il n'y a pas vraiment de cas dans la famille, c'est ça?
C'est ça. C'est-à-dire que si un seul des parents est allergique, il y a 25% des chances que l'enfant le prenne. Alors, si c'est les deux parents, ça passe à 50%. On dit donc que l'hérédité, ce qu'on appelle les familles atopiques, lorsqu'il y a un des parents qui a un équivalent atopique, effectivement, il a un risque de le transmettre à l'hérédité, mais ce n'est pas automatique. Et quel que soit alpha, les mesures de prévention peuvent aider, en tout cas, à que ce ne soit pas une transmission sévère. Hein. Il faut que la prévention peut aider avec la gestion de l'environnement à ce que ça ne soit pas gênant pour l'enfant.
Et en ce qui concerne, on va dire, un mot un petit peu compliqué, la concomitance, que ça arrive en même temps, les menstruations et ces déclenchements de crises allergiques. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur?
Alors, il n'y a pas une explication très claire, mais il a été démontré que asthme, rhinite allergique peuvent avoir une imprégnation hormonale. Les hormones jouent un rôle dans la survenue des crises d'allergie, mais on n'a pas une explication très claire scientifique. Alors, ce qui est important, c'est de prendre en charge la maladie atopique dans sa globalité, parce que c'est une forme sévère ici, avec des allergies respiratoires, une polyallergie alimentaire, des allergies cutanées. Et donc, il faut une prise en charge globale de sa maladie. Et je pense que si l'atopie est gérée dans sa globalité, il n'y a pas de raison que l'amélioration ne s'adresse pas à la période périmenstruelle.
Je suis bien d'accord avec vous, professeur Nyang, mais elle l'a dit tout à l'heure dans son intervention, cette jeune auditrice, à l'endroit où elle vit, il n'y a pas d'allergologue. Alors, comment on fait dans ces cas-là?
Je pense qu'il faut qu'ils se renseignent quand même, puisqu'il y a de plus en plus dans cette zone des allergologues qui ont été formés et des collègues que je connais très bien. Je pense que ce serait bien que ce soit un allergologue qui le pense, puisque c'est pour ça que cette spécialité a été dévolue. Parce que c'est difficile pour une spécialité de prendre en charge une symptomatologie cutanée, ORL, pulmonaire. C'est pour ça que l'allergologue, par contre, il est apte à gérer à la fois toutes ces manifestations. C'est un système de vase communicant, c'est une maladie générale et il faut que la prise en charge soit ciblée sur tous ces organes.
Eh bien, grand merci à vous pour ces questions. Très, très belle journée à Madagascar. Merci pour votre appel. C'est maintenant au Sénégal, à Dakar, chez vous, professeur Nyang, qu'on retrouve Adja. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, Adja, vous êtes aussi directement concernée par les allergies. Ça dure depuis quand?
Oui, ça dure pratiquement à l'âge de 14 ans.
Et dans la famille, vous êtes la seule ou d'autres personnes sont concernées?
Non, dans la famille, bizarrement, je suis la seule personne.
Alors, vous êtes un petit peu le contre-exemple de cette émission. Du coup, est-ce que vous évitez certains aliments?
Oui, par exemple, les crustacés, le chocolat, l'arachide, tout ça, je ne mange pas du tout.
Non, ça, c'est pas de chance. Hein. Pour les gourmands, c'est quand même des aliments qui sont quand même très, très attirants. Les crustacés, quand on habite à Dakar, c'est dommage. Est-ce que ça vous gêne, ces problèmes, dans votre vie quotidienne et professionnelle?
Oui, c'est très gênant par rapport à la vie professionnelle. C'est très gênant. Par exemple, quand je suis au chantier, bon, comme je suis une femme de chantier, quand je touche de la poussière ou bien je respire quelque chose, bon, les réactions, ça se déclenche automatiquement et ça me donne des toux, le nez qui coule, par exemple, bon, c'est hyper gênant.
Vous dites, vous êtes une femme de chantier, vous faites quel métier?
Je suis ingénieure en génie civil.
Une autre femme ingénieure. Alors, faut vous aider, hein, parce que pour continuer à faire ce métier extraordinaire, il faut vous aider. Vous prenez un traitement aujourd'hui contre l'allergie?
Au fait, pour le traitement, je me suis découragée. Ça fait plus de 5 ans que j'ai arrêté les médicaments. Je n'avais plus espoir. Là, j'essaie d'avoir une vie saine, de prendre soin de moi et de faire attention, très attention même. Et puis, même d'avoir à chaque fois un gel antiseptique dans mon sac. Même avant le corona, j'avais mon gel antiseptique. À chaque fois, je mets le gel. Tout ce que je suis allergique, j'évite ça.
Alors, moi, j'ai une chose à vous dire. Hein. Ce n'est pas du tout en tant que médecin, parce que je ne suis absolument pas médecin. Mais les bonnes habitudes, c'est une chose. Mais moi, j'ai des questions sur votre traitement. Vous preniez quoi comme traitement avant d'abandonner?
Les antihistaminiques.
Vous les preniez tous les jours ou vous le preniez que quand il y a une crise?
Je les prenais tous les jours parce que j'ai des réactions immédiates et j'ai des manifestations aussi, d'hypersensibilité très rapide aussi.
Et ça ne marchait pas, ces médicaments?
À la longue, ça ne marchait pas parce que j'avais des réactions répétitives. Je ne pouvais pas prendre les médicaments tous les jours aussi parce que j'ai peur des effets secondaires à la longue aussi, à long terme.
Il y a un petit peu de contradiction dans ce que vous me dites, Adja. Vous me disiez, il y a un instant, je les prends régulièrement, mais vous me dites, une minute après, je ne les prends pas tous les jours.
Non, je le prenais tous les jours, mais à un moment donné, j'ai arrêté tout traitement.
Parce que vous en aviez marre.
Oui.
Mmh. Professeur Suzanne Yang, qui est à votre écoute, vos questions précises à notre invité, c'est quoi?
Ma première question, c'est que je vais lui demander qu'est-ce qui déclenche les réactions allergiques rapides et dans quelle phase aussi la personne doit prendre des corticoïdes si les médicaments ne sont plus efficaces et quels sont les effets secondaires aussi à long terme si on prend les médicaments à chaque fois.
D'accord, les antihistaminiques. Alors, professeur Suzanne Yang, réaction immédiate, par exemple, quelqu'un comme Madja, elle sent un parfum, elle a tout de suite une réaction. Comment ça s'explique que ça vienne si vite?
Alors, il a tout simplement une allergie immédiate, hein, un mécanisme qui fait intervenir des immunoglobulines 1 et c'est des réactions immédiates, mais qui sont dues à une agression allergénique. Alors, je pense que dans son discours, on sent plus une éviction des microbes qu'une éviction des allergènes. Ce n'est pas la même approche. Ce n'est pas le gel hydroalcoolique qui va vous débarrasser de la poussière qui va passer dans le nez. Hein, je pense que, contrairement peut-être au Congo, où on peut penser qu'il y a moins d'allergologues, à Dakar, de plus en plus, il y a des allergologues et je lui conseillerais de faire une consultation allergologique où on lui fera des explorations qui identifieront ses principaux allergènes et on lui mettra des mesures d'éviction adaptées à ces allergènes. Ça, c'est le premier élément important du traitement. L'éviction allergénique est le pilier du traitement de la maladie allergique.
La deuxième question, c'est sur les effets secondaires des antihistaminiques au long cours.
Alors, les maladies anti-allergiques élaborées actuellement, ils sont élaborés suivant un consensus international. Et ce consensus fait de sorte que ces médicaments pris au long cours n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. Et les médicaments comme les corticoïdes sont faits de sorte qu'ils sont microdosés, inhalés in situ, parce que si vous l'inhalez, vous faites passer par le nez, ils atteignent directement le site de l'allergie. Ils permettent donc de réguler la symptomatologie assez rapidement. Et les antihistaminiques vont permettre plutôt de rallonger, d'espacer les kystes autant possible. Alors, il ne faut pas avoir une peur de ces antihistaminiques. Il faut juste savoir qu'à partir d'un palier 2, le niveau de sévérité, il faut adjoindre des corticoïdes inhalés qui vont justement diminuer le besoin en antihistaminiques et donc stabiliser et espacer de manière considérable les kystes. Les effets secondaires ne sont pas graves. Ça peut être des somnolences. Mais je pense qu'il faut oser la prise en charge. Et la prise en charge commence par une éducation qui va être faite par l'allergologue et vous permettra de prendre en charge vous-même votre maladie. Chaque fois, dans l'environnement où vous trouvez, vous saurez prendre les mesures adéquates. Surtout dans l'environnement professionnel, c'est important de vous protéger hein, parce que c'est des maladies professionnelles parfois.
Alors Adja, on se répète dans cette émission, mais on n'a pas peur de le faire. Il faut retourner consulter un allergologue qui pourra trouver les réponses adapté à votre problème. On vous remercie beaucoup. Une dernière auditrice maintenant en Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Stéphanie, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous avez deux enfants allergiques, ils ont quel âge?
La première a 12 ans et le second a 8 ans.
Et à quel type de contact, avec quoi réagissent-ils?
Ah, les enfants ils réagissent aux parfums d'abord, savon parfumé, pommade parfumée, tout ça, ils y réagissent. Et puis, une certaine catégorie d'aliments, les arachides et tout ce qui est poudre, chez nous, poudre de piment, poudre de gombo, tout ça, ils réagissent à cela.
Ils ont consulté un médecin, votre compagnie?
Oui, bien sûr, ma fille, ses allergies ont commencé dès le bas âge, je pense qu'elle avait 1 an, donc... Un pédiatre nous avait, après plusieurs traitements qui ne donnaient aucun effet, un pédiatre nous a conseillé de voir un ORL. Et c'est le ORL qui nous a fait faire une radio de, je crois, de la tête et qui a montré que ses voies respiratoires étaient bouchées, parce que, étaient en train d'être fermées parce qu'il y avait des végétations.
Et elle a été opérée?
Elle a été opérée 4 fois, dont 3 fois pour des végétations et 1 fois pour lui enlever les amygdales parce que c'était intenable.
Excusez-moi, pourquoi 3 fois les végétations? Ça revenait à chaque fois?
Oui, ça revenait à chaque fois parce qu'on ne savait pas à quoi elle était allergique.
D'accord.
Moi, je mets du parfum, mon mari met le parfum, on mange les arachides, on a le piment, tout ça, on ne savait pas. Il nous a fallu une dizaine d'années pour découvrir vraiment par le plus grand des hasards ce à quoi elle était allergique. Et bon, depuis, les crises se sont calmées, mais bon, elles reviennent de temps en temps, mais moins qu'avant.
Et vous ne portez plus de parfum ?
Si, j'en mets, mais seulement quand je suis hors de la maison.
D'accord. Et pour les arachides, c'est la même chose, c'est retiré de la cuisine familiale ?
Oui, c'est vraiment retiré, même de la maison.
De la maison.
Parce que elle, voilà, il lui suffit simplement de sentir, ou elle, de sentir l'odeur de l'arachide pour commencer à ne pas pouvoir bien respirer. Et ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est qu'en journée, on ne sent pas. Mais il suffit qu'elle ferme les yeux, qu'on sente qu'elle ronfle, on a l'impression qu'elle ronfle, elle bave. Et c'est là qu'on est inquiet.
Donc avec des manifestations plutôt inquiétantes. Les enfants, ils ont des traitements justement contre ces allergies ?
Ils avaient des traitements. Quand ils faisaient les crises, on leur donnait des corticoïdes, on leur donnait des antihistaminiques et autres là. Mais vraiment, c'était pendant les crises. Et après, quand les crises passent, ils ne prennent pas de médicaments.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux, les enfants ?
Mieux, on va dire mieux. Mieux, parce qu'on fait beaucoup attention à l'environnement. Mais là, par exemple, je dirais que mon fils, il est en pleine crise en ce moment parce qu'on a fait du ménage à la maison, il a respiré la poussière, tout ça. Donc, en ce moment, il est en pleine crise et il est en train de prendre des médicaments. Mais je veux dire, comme on sait ce qui crée le problème, on évite au maximum, en tout cas à la maison, on évite au maximum de les mettre dans ces situations.
C'est très intéressant, professeur Suzanne Yang, ce que vient nous expliquer Stéphanie. C'est vraiment qu'en étant bien informé, bien sensibilisé, quand on retire tout ce qui peut provoquer ces allergies, on améliore la qualité de vie des personnes qui sont concernées, même si, bien sûr, il y a certaines occasions où on ne peut pas éviter de mettre ces personnes en relation avec les allergènes, mais on peut en tout cas agir sur sa qualité de vie.
Parfaitement. Hein. L'éviction allergénique, c'est le mot-clé dans la prise en charge de la maladie allergique. C'est très difficile de gérer ces maladies allergiques si on n'évite pas les facteurs d'agression. Par contre, il faudra l'accompagner d'un traitement médical pour les crises. Il ne faut pas laisser les crises évoluer spontanément parce qu'on ne sait jamais quand ça peut s'aggraver. Parfois, on peut avoir un asthme sévère, avoir des réactions quand même imprévisibles, d'où la nécessité d'avoir des médicaments à portée de main et surtout d'être éduqué pour savoir quel est le type de traitement qu'il faut avoir en attendant d'aller à l'hôpital, comment faire pour calmer la crise et quand est-ce qu'il faut savoir passer le relais à l'hôpital pour éviter justement les crises sévères. Il ne faut pas baisser les bras. De plus en plus, les malades allergiques ont une éducation thérapeutique. Et le but de cette éducation thérapeutique, c'est de les rassurer, de leur apprendre à prendre en charge leur maladie allergique, de savoir quand est-ce qu'il faut réajuster les traitements, quand est-ce qu'il faut aller voir le médecin. Et ça permet de manière considérable de régresser l'incidence de la mortalité de ces maladies allergiques. Et ça s'est vérifié partout, dans tous les pays du monde. Et nous, dans nos pays africains, de plus en plus, l'éducation thérapeutique commence à entrer dans la prise en charge aussi bien de la dermatite atopique, aussi bien de l'asthme. Et on a vu que ça rendait des services considérables à la communauté.
Merci beaucoup. Merci d'abord à vous, Stéphanie, pour votre participation. Et puis, bien sûr, un grand merci à vous, professeur Suzanne Yang, pour toutes ces réponses, ces éclaircissements, ces conseils pour nos auditrices et auditeurs. Très bonne continuation à vous.
Merci.
Et nous restons en Côte d'Ivoire. Cette fois, c'est dans l'Ouest, à plus de 600 km d'Abidjan, que Raphaël Constant nous propose une belle rencontre dans le cadre de notre carnet de santé, reportage podcast, à la rencontre donc d'une femme au service de la communauté, Hélène, relais bénévole à l'Ogualé. Et ce podcast, nous vous invitons à le retrouver sur les sites et applications de RFI. Tout de suite, un avant-goût.
Bonjour, Madame Félix. Bon, je suis de passage, c'est un bonjour. Le bébé a quel âge ?
Elle a 4 ans.
J'étais passée juste pour la voir si ça va chez elle.
Hélène Dato commence toujours ses journées comme ça, en passant dans les cours de son village pour saluer la communauté. Dans son village, il n'y a ni centre de santé, ni hôpital. Alors le premier accès aux soins, c'est maman Hélène, comme on l'appelle.
Je suis relais communautaire entre la communauté et le centre de santé. Je suis élue par le village, donc j'ai le devoir de faire ce travail. Comme j'ai l'amour de mon village, j'ai l'amour de mes enfants, je veux que tous les enfants soient en bonne santé. Vraiment, je suis trop content de faire ce travail.
À 47 ans, Hélène est agente de santé communautaire bénévole depuis 2014 dans son village, Gosé-Gouiné 1. Elle a deux missions principales, faire les premiers soins des malades et sensibiliser les ménages au planning familial à la contraception. Il est 10h du matin. Hélène m'a donné rendez-vous sous l'arbre à palabres du village pour la tournée des visites à domicile.
Bonjour, bonjour. Monsieur Théo, est-ce que vous connaissez ce que c'est que le planning familial?
Au fait, je ne suis pas trop intégré dedans.
Hélène, d'un point de vue de la santé de la mère et de l'enfant, pourquoi c'est important l'espacement des grossesses?
La femme peut perdre la vie à l'accouchement parce qu'elle n'a plus de force pour pousser l'enfant. Elle peut faire fausse couche. La femme qui est enceinte et l'enfant en train de téter aussi, le lait est moins riche parce qu'il n'y a pas de vitamines dans le lait de la dame si elle est enceinte. Et la femme aussi n'a pas de vitamines dans son corps parce qu'en même temps, elle tient deux personnes à la fois, elle ne peut pas supporter. Les enfants maigrissent, ils n'ont pas de force.
Au fait, c'est la vérité. Comme elle est nos mamans aussi, elle est à nous, elle nous conseille toujours. Moi, je reconnais que ma femme, elle m'a trop supporté, elle a fait enfant. Moi-même, je préfère aussi de stopper à faire enfant et ma femme parce que nous avons beaucoup reçu les enfants.
Et vous êtes d'accord pour que votre femme utilise une méthode de contraception?
Oui, oui, je souhaite ça aussi. Elle va prendre soin d'elle aussi.
Quand je n'étais pas encore agent de santé communautaire, je ne prenais pas de pilule, je n'étais pas sur le planning familial, je faisais des enfants n'importe comment. J'avais 11 enfants. Comme je n'étais pas habituée à envoyer mes enfants à l'hôpital, j'ai perdu 6 enfants. La diarrhée, le palu, la malnutrition, ça tuait mes enfants comme ça. J'ai été formée. J'ai pris le courage d'aller sensibiliser mes soeurs à se planifier pour ne pas que la situation qui m'était arrivée leur arrive, pour ne pas que les enfants meurent comme ça.
Là, on vient d'arriver dans une cour. Où est-ce qu'on est?
On est chez Madame Mélanie.
Est-ce qu'elle vient souvent vous voir, Hélène, Madame?
Très souvent. Ça nous fait du bien. Pour avoir accès au centre de santé, ce n'est pas facile. Et quand elle vient faire les premiers soins, c'est très important pour nous dans le village. Maman Hélène, vraiment, nous avons besoin d'elle. Aujourd'hui, demain et tous les jours.
Dans ce village, il y a une école des maris. Ils sont formés pour sensibiliser que les hommes dans ce village à prendre les méthodes de contraception à leurs femmes. Donc, je travaille avec les maris modèles. En le faisant, je me sens fière parce que la communauté, c'est ma famille. Donc, si dans ma famille, il y a eu quelqu'un qui a été sauvé, vraiment, ça me réjouit beaucoup et je suis contente de servir ma famille, ma communauté en tout temps. C'est ma mission, je suis fière de le faire.
Carnet de santé, reportage Raphaël Constant en partenariat avec le Fonds français Muskoka, soutenu par l'OMS, ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA. Vous retrouvez ce podcast sur les sites et applications de RFI et vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les applis de podcast pour ne rater aucun épisode. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Sétou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Laurent Philippot. À Dakar, Alassane Biréba et Sarah Doumbia. Lundi dans Priorité Santé, à la veille de la journée mondiale sans tabac, des conseils pour arrêter de fumer et des témoignages. Ceux qui souhaitent donc en finir avec la cigarette et ceux qui ont réussi ce défi essentiel pour la santé. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sonou Banque, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets. Le festival